Francis Yesch, professeur d'université à Paris 5, René Descartes. Alors, je ne sais pas trop comment aborder ce que je veux dire. Je pense que je vais l'aborder. D'abord, merci pour cet exposé très clair. Y a un aspect qu'on n'a pas vraiment abordé, vous l'avez effleuré, c'est l'aspect économique. Ce que j'observe, c'est que la crispation sur la question de la laïcité est de plus en plus forte depuis que l'économie va mal, et particulièrement la désindustrialisation se fait de plus en plus importante dans notre pays. Alors, Gilles Kepel n'est pas là pour en parler. Je voudrais simplement évoquer les travaux d'un brillant chercheur au CNRS et à l'École normale supérieure qui s'appelle Marwan Mohamed, qui, lui, a travaillé sur les bandes de jeunes dans les cités, et qui explique que, et parce qu'au fond, le débat de la laïcité, il est crispé aussi, non pas du fait réel de la question religieuse, à mon sens, mais de la question des intégrismes religieux ou de l'intégrisme islamique. Marwan Mohamed explique que, jusque dans les années 80, les jeunes gens des cités entraient dans les bandes, et on sait que la bande est une reconstitution palliative de l'autorité ou des rituels qui peuvent manquer à ces jeunes-là. Les jeunes entraient globalement à 14 ans dans les bandes et en sortaient globalement au moment du service militaire. Et ensuite, ils allaient vendre leur force de travail, leur force physique, dans les usines, évidemment, et ce qui constituait une forme de socialisation. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le temps de passage dans les bandes, les bandes des cités a doublé, c'est-à-dire qu'ils y entrent de plus en plus jeunes, vers 13 ans, et ils en sortent vers 25-26 ans quand ils en sortent, mais sans aucun horizon de socialisation, puisqu'ils n'ont plus cette capacité à vendre sur le marché du travail leur force physique comme par le passé, comme ils ne peuvent pas non plus, parce qu'ils n'ont pas fait d'études supérieures ou secondaires, vendre leur force intellectuelle. Ils sont donc livrés à, évidemment, des idéologies qui vont travailler justement ces territoires et ces corps sociaux. Par le passé, c'était le gauchisme, c'était le trotskisme, etc. Et là, bon, maintenant, il y a une idéologie de rechange qui travaille cela. Et ce que je crois, c'est que c'est une donnée très importante à prendre en compte, et il me semble que si l'on pouvait sortir de cette désindustrialisation qui est malheureusement de plus en plus ravageuse, pour offrir un horizon de travail à ces jeunes-là, eh bien, ils ne se tourneraient peut-être pas vers, je ne sais pas si ce sont des démons ou des leurs, mais en tous les cas, vers ce qui crispe, à mon sens, aussi le débat sur la laïcité aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Je partage tout à fait votre point de vue, avec, je vais le redire, mais d'une manière un tout petit peu différente. Moi, on est plusieurs à être persuadés qu'on se trouve dans nos sociétés dans une situation qui ressemble tout à fait à celle de 1930. Il suffit de relire des livres comme celui de Saul Friedman sur la montée du nazisme, sur la montée de l'antisémitisme, pour s'apercevoir d'une chose que j'ai dite récemment et qui m'a été reprochée par certains de mes amis juifs. J'ai dit, pour moi, les musulmans de 2012 sont les juifs de 1930. C'est-à-dire que toute proportion gardée, bien sûr. J'espère qu'on n'en arrivera pas au même pogrom. On dresse devant nos yeux des écrans de fumée pour masquer la réalité de l'évolution de nos économies et de nos sociétés. Moi, je suis entièrement d'accord sur ce plan-là. Et ce que vous disiez à propos des jeunes, c'est qu'ils sont tous en recherche, pas seulement d'une spiritualité, comme je vous disais. Moi, je vais... J'ai fait cette démarche très particulière pour un grand maître du Grand Orient, c'est-à-dire que moi, je suis sorti de mon institution pour aller voir les jeunes dans les quartiers. Et j'étais encore récemment à Pau, dans un quartier défavorisé, en train de parler avec des jeunes de ces quartiers, et où je ressens ce que j'ai ressenti à La Paillade, ce que j'ai ressenti en Guyane, à Rémire-Montjoly, ou ce que j'ai ressenti évidemment dans le 93, c'est qu'ils sont très demandeurs, pas seulement d'une solidarité, mais aussi d'une spiritualité, qui puisse leur donner quelque chose d'un peu différent, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons déserté en tant que laïcs, et là la responsabilité est chez nous. Nous avons déserté des pans entiers de ce que je dis être la spiritualité et la solidarité. Et les jeunes dans les cités, dans les miennes en particulier, hein, moi je vis à Rosny-sous-Bois, donc je les vois tous les jours, je les vois dealer en bas de chez moi. Ils sont dans des circuits parallèles où cette solidarité existe. Mais elle n'existe plus ailleurs, et surtout pas à l'école. C'est ça la vraie problématique de l'école, qui fait qu'on n'aura pas de solution pour l'école, et ça, il faut le dire aussi à ceux qui nous gouvernent, uniquement en augmentant le nombre de professeurs ou en augmentant les salaires, c'est évident. Mais en essayant de désenclaver un certain nombre des ghettos qu'on a construits, en particulier dans l'Est de Paris et dans toutes les autres grandes banlieues. Ça se passe de la même manière. J'en ai parlé avec Gérard Collomb il n'y a pas très longtemps à Lyon. Ça se passe à Marseille, ça se passe à Montpellier, ça se passe partout. Et cette espèce de recherche d'une solidarité, on est, en grand défaut et en grande responsabilité de ne pas avoir su l'imposer. Donc, le fait économique, là derrière, épatant. Et je crois qu'il faudra... Alors, si, d'ailleurs, on entend des discours à l'heure actuelle qui, pas uniquement en France, ont tendance à aller dans ce sens-là, dans toutes les grandes démocraties, petit à petit, parce qu'on s'aperçoit que peut-être on ne pourra pas nous leurrer pendant trop longtemps. Parce que quand je parlais d'écran de fumée, je savais bien ce qu'il y a derrière d'une volonté de domination. Quand je vous disais que tous les pouvoirs forts ont essayé de récupérer la maçonnerie, je vous dirai de la même manière qu'un certain nombre de pouvoirs forts, dont les pouvoirs économiques, essayent de récupérer les démocraties, et pas seulement la franc-maçonnerie. Et nous qui sommes des enfants, justement, de la République, des proches, vraiment d'une manière qui est quasi organique, on en souffre, et on en souffre beaucoup en ce moment. On n'a pas les solutions, mais au moins faudrait-il qu'au plus haut niveau, il y a une prise de conscience de ces réalités-là. Nous le disons avec assez de force, hein, et répétons.
C'est une question justement pour aller dans le sens de ce que vous disiez au niveau de l'école. Où l'école a-t-elle failli dans cette perte de l'éducation à l'esprit critique ?
Vous me posez une question évidemment à laquelle je ne vais pas avoir de réponse claire, mais on a quand même quelques idées là-dessus. Je ne pense pas qu'il faille stigmatiser ni le système ni ceux qui le pratiquent, d'abord. Ça me paraît très important parce qu'ils ont été victimes, comme les autres, de ce qui se passait. Moi, dans la laïcité de terrain dont je parlais et que j'ai vécu, j'ai très bien vu dans mon département des laïcs convaincus, purs et durs et parfois francs-maçons, qui mettaient leurs enfants dans des écoles confessionnelles parce que simplement l'école publique était un accentuateur des inégalités. On le savait très bien. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que le problème de l'école, c'est un problème de citoyenneté, mais en général, il va falloir, sans doute, et ça, vous allez voir, je suis dans les vœux pieux, quasiment, pardon pour les religieux, mais il va falloir, sans doute, que l'on reprenne à notre compte toute une évolution de la société avec les fondements démocratiques réels et la dignité des hommes et des femmes. Et l'école est dans cet ensemble-là. L'école n'est pas un appendice à la société. Elle est partie prenante de la totalité. Donc c'est la société elle-même qu'il faut faire bouger. On a publié quelque chose sur l'école, ce qu'on a appelé l'école républicaine du futur. Et on s'est aperçu qu'on tournait en rond sur les solutions immédiates. Alors, aussi d'ailleurs, sur les analyses, sur les analyses, il est très probable qu'on a commencé à dériver sur le problème de l'école à partir des années 80, qui sont aussi aux États-Unis les années Reagan, qui sont la disparition de ce que Roosevelt, du New Deal, et de ce que Roosevelt avait dit dans son dernier discours en 1944, quand il disait qu'une population doit être libre de s'alimenter, de se vêtir, de se loger, de travailler et de s'exprimer. La liberté à ce niveau-là nous paraissait très importante. Et donc, si vous voulez, voilà, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Et on en revient aussi à l'économie. Alors, je ne veux pas faire ce qui me gêne. C'est qu'à partir d'un moment, dans mon discours, je finis par faire une analyse qui peut être jugée très politicienne. Mais elle est quand même très politique. C'est-à-dire que le vrai problème est un problème économique. Et qu'il va falloir revenir à la notion que les hommes doivent profiter évidemment des systèmes économiques et pas le contraire. Alors vous voyez, je suis là dans le vœu pieux, mais l'école est soumise, à mon avis, à des pressions qui sont liées à celles de la société, oui. Et on n'aura rien, on ne pourra pas changer l'école en changeant les dates des vacances. Hein.
Pardon de reprendre la parole, mais si je vous suis, il pourrait y avoir une explication quasi paranoïaque de la question de l'école. Je veux dire par là que les religieux de la finance se sont aperçus depuis les années 80 qu'il y a deux secteurs qui sont profitables dans les démocraties occidentales, c'est les maisons de vieux et c'est l'enseignement secondaire ou supérieur. Bon, on voit que maintenant les grandes écoles, quand elles sont organisées en réseau, elles sont cotées en bourse, elles sont CAC 40. Moi j'étais très frappé et choqué par évidemment le discours du Latran de Nicolas Sarkozy et je me suis demandé à qui pouvait profiter ce crime de l'instituteur laïque. Et bien pour moi le fait de sinistrer comme on le fait depuis quelques décennies l'enseignement, et ça ne date pas de la droite, hein, puisque le premier à avoir déverrouillé les grandes écoles dans le supérieur, c'est évidemment le deuxième septennat de François Mitterrand. Le fait de déverrouiller cette question-là, évidemment, ça permet à l'État de se décharger d'une partie évidemment très très importante des coûts que représente l'éducation secondaire ou supérieure, de les transférer sur les familles qui ont tellement peur évidemment de l'avenir qu'elles n'hésitent plus aujourd'hui ou pas ou peu à mobiliser, à investir des dizaines de milliers d'euros pour inscrire leurs enfants dans des universités payantes, et on voit ce que ça a donné les mouvements sociaux en Grande-Bretagne ou au Québec. Il y a à mon sens l'idée que au fond on va favoriser de plus en plus l'enseignement privé, religieux ou non, mais religieux pourquoi pas, parce qu'il va pouvoir effectivement assumer le rôle de l'éducation à la morale comme nous l'avons nous-mêmes vécu autrefois dans l'école républicaine. Et on sait très bien, et j'en termine par là, que même les grands groupes que sont par exemple Bouygues, LVMH, etc. sont en train de construire des universités qui leur rapporteront énormément d'argent, parce que d'un côté elles pourront satisfaire au 1% de la formation des personnels, et de l'autre côté, évidemment, les gens, quand ils sauront que leurs enfants, en entrant dans l'université Bouygues, pourront aller soit dans le BTP, soit dans la téléphonie mobile, soit dans le cinéma, soit dans la télévision, soit dans le nucléaire, il y aura effectivement là, du coup, un horizon qui n'existe pas pour l'instant, ou peu, parce que effectivement l'école et l'université sont sinistrées.
De la même manière, on est dans le problème de la solidarité là, hein, en même temps. De la même manière, on a le même souci avec la santé. Hein. On a le même souci avec la santé. C'est absolument parallèle. C'est pour ça que je disais que le problème de l'école est évidemment pas un problème isolé. Dans la santé, on a une absence totale d'abord d'expression politique. On l'a vu pendant la campagne. Hein. On a été très surpris, alors que c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Et que on a des une toute petite parenthèse dans ce domaine. Par exemple, il n'y a pas en France d'observatoire des suicides. On imagine le taux de suicide à l'heure actuelle en France à 12 000 par an, ce qui est énorme, et qui est en train de croître à la vitesse grand V. Parallèlement à celui de la Grèce, j'étais à Athènes récemment justement pour en parler, où le taux des suicides augmente aussi de manière étrangement rapide. J'ai écrit à l'époque à Xavier Bertrand, on a essayé de faire pression, là j'attends que les nouveaux s'installent, mais on va recommencer quand même, parce que une des principales qualités du maçon, c'est l'obstination, hein. Pour monter un mur, il faut de l'obstination. On va relancer le débat, parce qu'il nous paraît très important dans des domaines de ce genre, d'avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer, avec quand même une crainte qui est assez claire de la part de nos politiques. C'est que cette élévation de la courbe est en ligne directe, si j'ose dire, en rapport direct plutôt, avec les problèmes économiques et les problèmes de travail. On le sait très bien. Le nombre de suicides dans les grandes entreprises sont effrayants quand on les a. Et je travaille donc avec un médecin qui est à Saint-Étienne, qui est un prof à la fac, avec lequel on essaye justement de pousser à ce qu'on fasse des études dans ce domaine. Alors voilà la même chose. C'est-à-dire qu'on a un système de santé et un système d'études de la santé qui est complètement négligé aux dépens de l'efficace. Tous les problèmes des honoraires des médecins sont des problèmes qu'il faut... Alors, on est en plein dans la laïcité, pardon, hein. J'ai l'impression que on est parti, vous voyez, où la laïcité nous amène. C'est ça le problème de la laïcité. Je le disais, dans une société comme la nôtre, qui est en train de se détricoter au niveau du tissu social, on se pose de vrais problèmes sur la laïcité, parce que on en arrive tout doucement à la communautarisation qu'on disait tout à l'heure, et à la résurgence de certains fondamentalismes. C'est évident. Le lien est absolument évident entre les deux. Et donc, on est obligé d'envisager la laïcité sans cesse se référer à cette loi de 1905, mais en en faisant réellement un concept fondateur des démocraties. Voilà, on est particulièrement concerné en tant que maçon. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même été parmi ceux qui ont écrit le Code du travail. Arthur Groussier, qui a été grand maître du Grand Orient, était un de ceux qui ont écrit le Code du travail, avec, après la guerre, Paul Ramadier, qui était aussi un franc-maçon. Et on a toujours été très attachés à cette protection des individus sur le plan social. Et on voit, il suffit d'aller sur certains sites spécialisés, il y a celui de Gérard Filoche, par exemple, on voit petit à petit se détricoter le Code du travail à coup de petits décrets successifs, pas très importants, mais qui suppriment des tas d'avantages qui font qu'on fragilise des pans entiers des populations qui vont se trouver à un moment en grande difficulté.
Oui. Bon, moi, évidemment, c'est dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, mais par rapport au rôle, donc là je reviens au problème plus spécifique de l'éducation à la laïcité, il y a ce cléricalisme de l'argent qu'il faut dénoncer, et il faut certainement aussi que les éducateurs, les enseignants en soient parfaitement conscients. Ce dogmatisme, cette féodalité de l'argent est une chose, mais quand on a affaire à l'enseignement, aux élèves ou bien à l'université, il devrait y avoir une formation spécifique pour l'enseignement de la laïcité à tous les niveaux de l'éducation.
Mais vous avez dit exactement les mêmes choses que moi, en vous attachant à ce problème spécifique, il y a quand même quelque chose dont il faut que tous les deux, qu'on puisse dire tous les deux, c'est que l'enseignement, évidemment, mais sans prise de conscience, ce serait inefficace. C'est ça notre vraie problématique. Sans prise de conscience citoyenne de la nécessité de faire évoluer nos sociétés sur un mode démocratique où la laïcité pourra fleurir, et moi je ne suis pas non plus, vous l'avez compris tout à l'heure, prêt à lâcher sur le mot lui-même, mais prêt à lâcher dans la discussion avec des non-nationaux français pour essayer de faire progresser l'idée qui est derrière, oui. Voilà, il y a une petite nuance peut-être.
C'est vrai qu'on parle toujours de l'économie, et moi je voudrais bien vous demander tous et ici, si vraiment la question c'est quelle économie nous voulons, et si la question aussi se pose de la façon de parler d'une culture nouvelle d'économie, c'est-à-dire une nouvelle proposition pour notre société. C'est-à-dire, quelle est la nouvelle proposition de vie pour nous?
C'est-à-dire, c'est le thème d'un nouveau colloque, en réalité,
mais
que
oui,
vous nous
sûr,
proposez là.
La laïcité, hein, la laïcité, vraiment, pourrait bien proposer cette nouvelle proposition de vie.
Moi, je suis alors là.
Et je suis...
Oui. Moi, je suis absolument persuadé de ce que vous dites. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux de la démocratie et dire qu'une laïcité... Et quand je parlais tout à l'heure de la Grèce et d'Athènes, une ville à laquelle je suis particulièrement attaché, et quand je vois la déshérence de mes amis grecs en ce moment, la douleur dans laquelle ils sont, parce voilà, que nombreux sont en train d'essayer de partir, de quitter la Grèce, même quand ils ont des affaires personnelles importantes, des pharmacies, des entreprises, des usines, parce qu'ils me disent il n'y a pas de lumière avant au moins 10 ans chez nous. Et on ne peut pas élever nos enfants dans une société qui est en train d'évoluer de cette manière. Alors, je pense qu'en Europe, on a beaucoup négligé cet avertissement grec. On continue à considérer que, finalement, c'est la faute des Grecs, hein, on l'a entendu. C'est la faute de l'État grec, c'est la faute des comportements des Grecs. On a oublié que ça nous a arrangé en Europe, pendant des décennies et des décennies, qu'on a gardé un silence pudique sur les systèmes politiques, justement parce qu'on y trouvait des avantages qui étaient des avantages pas faciles à dire, et que maintenant on est quasiment au pied du mur. Quand je parlais de 1930 tout à l'heure, c'était pas pour aigrir le débat, c'était pas pour le noircir, c'est pour dire, pour moi, la sensation réelle de danger que j'ai dans l'évolution de nos sociétés. Et on en voit en Grèce les prémices, et ce sont des prémices non pas grecques, mais européennes.
Voilà. Et c'est pourquoi vous avez parlé de la spiritualité.
Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça.
Oui, merci.
Merci.
Bah, écoutez, il y avait une cohérence à évoquer le retour aux fondamentaux de la démocratie et la Grèce dans le même mouvement. C'est quand même le berceau de la démocratie. Merci beaucoup, Guy Arcizé.
Juste une phrase.
Oui.
Parce que Laurent Pochat qui vient de m'apporter le programme, et oui, sur la quatrième de couverture, il y a une petite phrase d'Edgar Morin qui devrait vous faire plaisir. L'avenir humain est frappé d'incertitudes et d'inconnus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que pour les envisager, il nous faut dès maintenant préparer la réforme de la connaissance capable d'affronter incertitudes et complexité.
On ne saurait mieux dire.
Merci.